Interview.
2 jours.
Vous êtes à l'écoute de RDWA 107.5 FM et internet www.rdwa.fr en compagnie de Corinne Morel-Darleux. Bonjour.
Bonjour.
Nouveau compte-rendu de mandat radiophonique à la suite de cette session plénière du 29 mars dernier. Et ça faisait un petit moment. Hein. On avait déjà évoqué que le calendrier s'étalait comme ça en fonction des objectifs de Laurent Wauquiez, notamment une session qui a été pas mal chamboulée. Et notamment, c'est passé partout dans la presse suite à la modification d'un amendement qui pourtant avait déjà été adopté. Et en plus, ça tombe bien ou mal, je ne sais pas, mais c'était un que vous avez proposé. Ils sont rares ceux que retenus par le groupe du Rassemblement.
Tout à fait. Alors effectivement, on avait proposé un amendement qu'on avait déjà proposé d'ailleurs. Hein. C'était un amendement qui visait à inscrire dans une délibération sur les lycées le fait d'introduire une alimentation local, de saison et également biologique dans les cantines de nos lycées. Alors c'est un objectif qu'on avait déjà essayé de défendre au moment où il y avait eu le texte sur le développement de l'agriculture biologique dans la région qui avait été à ce moment-là refusé. Donc on n'a pas baissé les bras et on a redéposé cet amendement à l'occasion de ce texte sur les lycées. Et à notre surprise, effectivement, Laurent Wauquiez avait donné un avis favorable et il avait donc été adopté à l'unanimité moins une voix. Ce qui était quand même un beau résultat et un joli pied mis dans la porte pour aller vers des repas de qualité pour nos enfants. Donc on était très contents de ça. Et puis il se trouve que le mois dernier, je suis intervenue dans un lycée en Ardèche sur les questions d'alimentation. Et donc à cette occasion, on a fait un petit dossier pour ressortir justement nos différents amendements et le travail qu'on faisait dans l'Assemblée régionale. Et c'est là qu'on a eu la grande surprise de se rendre compte que notre amendement avait été modifié après avoir été adopté, après avoir été voté. Puisque en fait, une fois que les amendements sont votés, ils sont transmis au préfet pour ce qu'on appelle le contrôle de légalité, puisque le préfet doit s'assurer qu'on n'est pas en infraction avec la loi. Et donc, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement, mais toujours est-il que ce qui a été envoyé au préfet est donc validé. C'est pas tout à fait notre amendement, puisque s'y est glissé deux modifications en réalité. D'une part, nous, on parlait de gestion de cette alimentation locale et bio, et ça s'est transformé en approvisionnement, ce qui appauvrit le propos, hein, puisque...
On peut faire la différence entre les deux. Gestion, qu'est-ce que vous entendez par là?
La gestion, ça veut dire que la région gère concrètement cet approvisionnement, mais aussi la logistique, la provenance. Non, pas forcément en devenant productrice, mais elle gère l'ensemble de la chaîne, en fait. Approvisionnement, c'est uniquement le fait que la nourriture arrive dans les cantines. Donc, la région n'a pas forcément la main sur l'ensemble du processus.
Oui, ça pourrait être du bio d'Espagne, par exemple.
Voilà. Et puis, l'autre chose, c'est que c'est glissé également dans notre amendement un petit « dans la mesure du possible ». Alors, l'amendement, pour tout vous dire, était déjà pas à la hauteur de nos ambitions, hein, puisqu'il n'indiquait pas de date d'échéance, il n'indiquait pas de pourcentage ou de volume. Mais bon, c'était, comme je le disais, un premier pied dans la porte. Mais alors avec « dans la mesure du possible », là, on voit évidemment que ça appauvrit encore plus, ça affaiblit encore plus la portée du propos. Et puis surtout, sur le principe, on ne modifie pas un texte qui a été voté en Assemblée régionale. En termes juridiques, c'est quelque chose qui pourrait relever du faux en écriture publique, si l'intention est confirmée de changer délibérément le propos. Alors, pour l'instant, on ne sait pas ce qui s'est passé. La région a évidemment été interpellée. L'exécutif de Laurent Wauquiez a répondu que c'était une faute des services, ce qui n'est pas forcément très très élégant de leur part. Et donc nous avons, sur cette information comme sur d'autres, hein, évidemment, informer et alerter sur cette nouvelle interrogation quant au fonctionnement démocratique de cette institution. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu un article dans Mediapart et qui a été repris par la presse. Il y a eu une dépêche AFP également. Pour tout vous dire, l'ambiance de cette session était assez tendue avec Laurent Wauquiez et puis avec ses vice-présidents, notamment avec Étienne Blanc, que j'ai vu la veille de la session en conférence des présidents et qui a été particulièrement tendue, énervée et même assez menaçant vis-à-vis de nous. Voilà, on a bien compris d'abord qu'ils étaient en train de préparer la contre-offensive, donc on ne sait pas s'ils vont essayer de nous attaquer en diffamation, par exemple. Et puis, on a bien compris aussi qu'on pouvait toujours attendre avant qu'un de nos amendements soit de nouveau accepté par l'exécutif. Ce qui n'est pas très politique, mais plutôt assez politicien, puisque le fait que nos amendements soient pris ou pas devrait dépendre de leur pertinence politique et pas de règlement de compte entre la majorité et l'opposition. Mais enfin, voilà où on en est. En tout cas, nous, évidemment, nous ne regrettons pas un seul instant de continuer à faire connaître ce qui se passe. Voilà, quand il y a une anomalie de cette ampleur, il est bien normal, ça fait aussi partie de notre rôle d'élu, de le faire savoir et puis de faire en sorte que ce soit corrigé, quoi.
Sur quelle base donc s'énerve-t-il ? Sur le fait d'avoir mis en avant un autre événement
À vrai dire, de ce que j'ai compris, ce qui a beaucoup énervé Étienne Blanc, c'est surtout le fait que nous ayons contacté Mediapart. Ouais. Je ne sais pas si il m'a accusé personnellement d'avoir appelé Edwy Plenel, comme il dit. Le Front National s'en est d'ailleurs donné à cœur joie dans cette réunion en parlant de la presse bourgeoise. Enfin bon, je vous épargne les différents propos échangés. Et ben, je pense qu'en fait, ce qu'ils nous ont dit et ce qu'a dit Laurent Wauquiez aussi à notre présidente de groupe Monique Cosson, c'est qu'on aurait dû le prévenir avant en fait. Donc on leur a quand même expliqué qu'eux nous prévenaient rarement quand ils faisaient des annonces dans la presse avant même que nous les ayons votées. Et que là, pour une fois qu'on a voté quelque chose, que ce soit modifié après, peut-être que ça peut là aussi être relayé dans la presse. Mais visiblement, voilà, non, ils attendent qu'on les prévienne avant. Ouais. Peut-être la prochaine fois, il faudra que je passe un petit coup de fil à M. Wauquiez avant de venir sur Radio Diwa pour lui dire ce que j'ai l'intention d'expliquer dans cette émission. Mmh.
La question quand même qu'on se pose, c'est la légalité de cette pratique-là, au-delà du principe, vous citiez tout à l'heure, ou l'aspect un peu cavalier hein, de
pour
pratiquer
le moins,
comme
oui.
Ça. Bon, alors donc l'amendement part au préfet, il est validé, donc c'est légalisé, étatique, il revient modifié, est-ce que c'est légal ?
Non, c'est pas légal, effectivement. Alors après, bon, ça relève de la justice et plus des politiques, mais c'est effectivement illégal. Et d'ailleurs, la région a tenté de récupérer un peu le truc en faisant passer en commission permanente qui suivait l'Assemblée plénière le 29 mars. Donc là, la commission permanente, il n'y a pas tous les élus, il n'y a pas la presse, c'est pas public. Ils ont fait passer un rapport rectificatif, en quelque sorte, hein, pour corriger justement cette faute. Sauf qu'ils s'y sont pris, là encore, d'une manière pour le moins maladroite, puisque d'une part, ils ne respectent pas ce qu'on appelle le parallélisme des formes, c'est-à-dire que quelque chose qui a été voté en assemblée plénière devrait être rectifié en assemblée plénière et non pas en commission permanente, d'une part. Et puis, d'autre part, je ne sais pas où ils ont la tête en ce moment, mais ils n'ont modifié qu'une des deux fautes qui avaient été faites, en retirant le « dans la mesure du possible », mais en maintenant approvisionnement et non gestion. Donc voilà, je ne sais pas, là, je crois qu'ils ont été maraboutés sur cet amendement. Ils vont vraiment de caribe dans celle-là, visiblement.
Et donc ça peut aller où après ? Est-ce que en justice, justement ?
Ça peut éventuellement aller en justice, effectivement. Alors nous, on est dans l'interrogation par rapport à ça, parce que au départ, on souhaitait pas porter cette affaire devant la justice, estimant que c'était grave sur le principe, mais que dans les faits, la modification ne justifiait pas d'aller devant le procureur de la République. Depuis que l'histoire a été rendue publique, on a eu beaucoup de retours, énormément de retours, nous demandant de saisir le procureur de la République. Et par ailleurs, selon la loi et selon le Code général des collectivités territoriales, nous avons l'obligation de saisir le procureur de la République quand nous avons des informations qui peuvent relever effectivement d'une infraction pénale. Voilà, on est un peu en interrogation pour l'instant sur la conduite à tenir. Il y a aussi la possibilité que d'autres que nous, du côté de la société civile, s'en saisissent. Pour l'instant, on est un peu en réflexion par rapport à ça. On devrait y voir plus clair dans les jours qui viennent, sachant que pour que l'infraction soit confirmée, entre guillemets, il y a quand même plusieurs éléments à réunir, notamment la question de l'intentionnalité, et que là-dessus, aujourd'hui, nous n'avons pas de preuves particulières, puisque nous n'avons aucune information sur ce qui s'est réellement passé. Après, je ne vous cache pas qu'on est aussi en train de regarder du coup sur d'autres amendements et d'autres vœux et d'autres votes qui sont passés sur nos suggestions, qu'ils aient bien été validés au moment de l'envoi au préfet. Parce que par contre, si c'est quelque chose de répété et si ça s'avère être une pratique ou un dysfonctionnement, en tout cas réitéré depuis le début du mandat, on a un sérieux souci.
Aïe, aïe, aïe. Du coup, j'ai envie de savoir ce qu'en pensent les salariés, on va dire, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont directement accusés, vous le disiez tout à l'heure, d'avoir eux-mêmes modifié. En termes d'ambiance, là, on parlait de l'ambiance entre vous, politiques, mais enfin, je veux dire, institutionnellement.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, pour le coup, effectivement, c'est une accusation qui est pas très élégante, dont on n'a pas de moyen, nous, de savoir si elle est fondée ou pas, mais qui serait assez surprenante, d'abord parce que Laurent Wauquiez et sa majorité ont réorganisé l'ensemble du fonctionnement de la région pour justement avoir la main sur tout ce qui passe et faire filtre. Donc, ce serait étonnant que ce genre de choses puissent se faire sans qu'ils en aient connaissance, d'une part. D'autre part, je ne vois pas un agent des services prendre la liberté de modifier des amendements votés par l'Assemblée. Et puis, il faut aussi rappeler les conditions de travail aujourd'hui des agents de la région qui alertent depuis des mois sur la difficulté liée à la réorganisation ou plutôt la désorganisation d'un certain nombre de directions, le manque d'effectifs suite à des compressions de personnel et le fait qu'ils ont beaucoup de difficultés à travailler dans ces conditions-là, sachant qu'en plus Laurent Wauquiez passe son temps à faire des grandes annonces dans la presse avant d'avoir vérifié que ça va vraiment pouvoir être mis en œuvre et que derrière, c'est bien les services qui doivent cavaler pour essayer de rendre tout ça conforme. Donc voilà, on a effectivement un peu de mal à adhérer à cette version officielle de la région. Et en tout cas, c'est aussi l'occasion de réaffirmer notre solidarité avec les agents qui travaillent aujourd'hui dans des conditions particulièrement difficiles, avec très peu de dialogue social et beaucoup de souffrance au travail.
Voici donc pour des amendements qui pourraient ne pas arriver complètement entiers au moment où il faut les exécuter à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Avec vous, Corinne Morel-Darleux, un autre sujet. Vous avez posé une question orale par rapport à la situation à Afrin. Bon, je pense que tout le monde en a entendu parler. Cette frontière syrienne avec la Turquie, attaquée par la Turquie et en même temps alliée, pour faire gros, de nous autres, puisque en lutte contre les groupuscules terroristes qu'on appelle rebelles syriens. C'est une situation très tendue. Finalement, on se demande bien qu'est-ce qui est en train de se passer là-bas, pour qui joue quoi. En tout cas, la population souffre assez lourdement. Et donc, vous avez posé une question orale.
Oui, alors effectivement, la situation en Syrie du Nord est particulièrement épouvantable. Depuis le mois de janvier, en fait, l'armée turque est entrée en Syrie avec des troupes au sol et avec des bombardements aériens, a finalement réussi à prendre la ville d'Afrin, qui était une ville qui était sous gestion des Kurdes depuis des années. Elle fait partie de cette zone qu'on appelle le Rojava, ou le Kurdistan syrien, qui s'était doté de ses propres écoles, de ses propres forces de sécurité. Et donc Afrin est tombée aux mains de l'armée turque, avec de très lourdes pertes civile, puisque c'est une des villes où s'étaient réfugiés beaucoup de populations syriennes pendant la guerre et qui était justement un des derniers havres de paix de la zone. Maintenant, le président turc, M. Erdogan, annonce qu'il veut poursuivre l'offensive en allant plus vers l'est du Rojava, vers la ville de Manbij, voire en allant bombarder des zones kurdes en Irak du côté du mont Sinjar. Alors la situation est évidemment très complexe. Les choses bougent quand même un petit peu puisque Emmanuel Macron a annoncé le soutien de la France, notamment sur la ville de Manbij, où sont également des garnisons états-uniennes. Alors, il faut bien voir qu'on est là dans une situation totalement ubuesque, hein, puisque la France et les États-Unis sont membres, comme on s'en souvient, de l'OTAN, que la Turquie est également membre de l'OTAN, que la ville d'Afrine était sous contrôle aérien des Russes, et que Bachar el-Assad est toujours au pouvoir en Syrie. Donc vous imaginez un peu effectivement le chaos diplomatique que tout cela représente, mais c'est avant tout une catastrophe humanitaire. Et donc je suis intervenue pour poser une question orale à Laurent Wauquiez, comme on en a la possibilité hein, d'après le règlement intérieur, pour connaître sa position et pour élargir le camp des condamnations très fermes de cette invasion turque et de cette agression turque sur les populations d'Afrine et de manière plus générale sur le projet alternatif qui se construit au Rojava, puisque ce qu'on défend, c'est aussi ce projet politique dans cette zone kurde, qui est un projet multiculturel, multiethnique, multiconfessionnel, puisqu'il n'y a pas que des Kurdes, hein, y a des Turkmènes, il y a des Yézidis, il y a des Arabes, voilà, il y a plein d'ethnies et de religions différentes qui arrivent à vivre ensemble. C'est un projet qui défend aussi le féminisme et l'écologie. Vous imaginez que défendre le féminisme quand on est au plein cœur du Moyen-Orient, c'est pas tous les jours facile, et c'est évidemment extrêmement précieux. Donc j'ai posé cette question écrite, cette question orale, pardon. Ce qui était intéressant, c'est que j'ai aussi pu m'appuyer au moment de la question orale qui est intervenue assez tard le soir sur des propos qui avaient été tenus un petit peu plus tôt dans la journée, puisqu'on avait aussi eu un débat sur un rapport qui était proposé là par l'exécutif de Laurent Wauquiez, qui était un rapport pour un plan d'aide d'urgence auprès des chrétiens d'Orient dans 4 pays, la Syrie, mais aussi l'Irak, le Liban et l'Égypte. Et il y a eu un débat assez intéressant à cette occasion-là qu'on a porté avec d'autres sur le fait de ne pas réserver cette aide aux seuls chrétiens d'Orient sur la base d'une religion, mais de la porter à l'ensemble de ceux qui en avaient besoin et qui étaient persécutés pour des motifs soit ethniques, soit religieux. Il y a eu plusieurs amendements hein, qui allaient dans le même sens et en l'occurrence, il y en a un, celui du groupe communiste qui a été retenu. Donc ça, c'était plutôt une bonne chose. En revanche, sur un autre point que nous avons soulevé par la voix de notre élue Myriam Laïdouni-Denis, qui visait à retirer un point de ce rapport qui encourageait les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes à... le texte en fait proposait qu'elles soient aidées par la région pour aller faire des affaires sur les lieux de guerre qui avaient besoin d'être construits. Bon, pour être très clair, on a expliqué nous qu'on ne faisait pas de business avec l'humanitaire et que c'était particulièrement déplacé de mettre de l'argent à disposition de nos entreprises pour qu'elles puissent aller faire des affaires sur les décombres. Ce point-là n'a pas été entendu, il a été conservé, et donc on s'est abstenu sur ce rapport. Mais en tout cas, ça m'a permis voilà, de rebondir là-dessus pour poser cette question orale, puisque Laurent Wauquiez, à l'occasion de ce débat sur les chrétiens d'Orient, s'était exprimé de manière assez forte en soutien effectivement aux populations kurdes, en disant que ce qui se passait au Kurdes distant syrien, même s'il n'a pas utilisé ce terme-là, était le comble du cynisme international, puisqu'il ne faut pas oublier que ces Kurdes aujourd'hui qui bombardés par la Turquie, c'est les mêmes qui, il y a quelques semaines, étaient nos alliés face à Daesh et qui ont permis de reprendre des villes comme Kobané ou Raqqa, qui étaient aux mains de Daesh, et qu'aujourd'hui, le fait qu'elles soient elles-mêmes victimes des bombardements turcs, les détournent de ce combat-là, qui n'est pas fini, contrairement à ce qu'on entend, et qui du coup bah, laisse les mains libres aux djihadistes pour se remettre, renforcer leur position et pouvoir le cas échéant planifier de nouveaux attentats en Europe.
Sur deux fronts du coup en plus, pour tenir c'est quand même compliqué. Je voudrais qu'on, si c'est possible, si vous l'avez, qu'on fasse un tout petit peu d'historique de cette zone quand même, Afrin, le Rojava. Bon, c'est donc des Kurdes et c'est principalement parce qu'ils sont Kurdes que les Turcs les attaquent.
Oui, d'ailleurs donc, ça a été dit clairement par Erdogan que c'était à des fins de nettoyage ethnique.
C'est ça, donc on en a parlé plusieurs fois, les Kurdes en tout cas ne sont pas appréciés par Erdogan, peut-être pas par tous les Turcs mais ça c'est clair. Du côté de la Syrie, est-ce que cette zone-là, est-ce que les Kurdes syriens étaient par Bachar el-Assad relativement acceptés, voire plus que tolérés, enfin je veux dire c'était prévu, intégré dans le cadre de son pays.
Alors oui, la constitution effectivement de cette zone autonome kurde qu'on appelle le Rojava est tolérée par le régime de Bachar el-Assad puisqu'ils ont pu sous ce régime se constituer avec, ils ont mis en place ce qu'on appelle le confédéralisme démocratique qui a été théorisé notamment par Murray Bookchin qui est un écologiste social. Donc ils ont mis en place une sorte d'assemblée législative qui se réunit de manière régulière à parité hommes-femmes et avec des représentants de l'ensemble des quartiers, de l'ensemble des communautés qui vivent sur place. Ils ont pu mettre en place leurs propres forces de sécurité, ils ont pu mettre en place leurs propres écoles avec des manuels qui sont traduits en kurde mais aussi en yézidi et en arabe, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Donc en plus c'est pas du tout un processus de kurdisation forcée comme il y a eu des processus d'arabisation forcée. Donc ils ont quand même bénéficié d'une certaine latitude et d'une certaine marge de manœuvre, étant entendu que c'est une province autonome qui n'est pas sécessionniste et qui n'est pas indépendante, qui fait partie de la Syrie, mais qui dispose de ses propres institutions, un peu plus comme ce qu'on connaîtrait en Europe sur un système fédéral en fait.
Ouais. Et donc Bachar el-Assad, a priori, est allié plutôt de cette zone-là, comme les Russes le sont, contre Daesh et comme le reste du monde finalement.
Alors, dans le cas de Bachar el-Assad, je crois qu'on ne peut jamais trop parler d'alliés. Et dans cette zone-là, c'est toujours compliqué de parler d'alliances parce que les alliances, on le voit, se retournent comme des vestes de manière très rapide. Donc, je ne parlerai pas d'alliés, mais en tout cas, il y avait effectivement une tolérance, on va dire.
Ou une cause commune, en tout cas, à combattre Daesh à ce moment-là.
Pas de manière si claire parce que les choses sont très compliquées. Je vais prendre un exemple sur justement cette invasion de l'armée turque. Les Turcs se sont eux-mêmes alliés à d'anciennes milices djihadistes et à d'anciens de Daesh pour attaquer les Kurdes par exemple. Et les Russes qui devraient être les premiers à réagir puisque Afrin était sous leur zone de contrôle aérien n'ont pas réagi par rapport à ça. Donc c'est très compliqué en fait de parler d'alliés parce que les alliances se retournent très rapidement dans cette zone en fonction des intérêts des uns et des autres. Et ce qu'on peut dire en revanche, c'est que si on regarde sur des décennies en arrière, une chose est certaine, c'est que de manière quasi systématique, à la fin, ce sont toujours les Kurdes qui perdent, je peux dire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de je sais pas comment dire.
Un acharnement.
Ouais, une espèce de persécution et d'acharnement sur les Kurdes qui fait qu'ils ont toujours été utilisés quand il y avait besoin d'eux, notamment en termes de combat, puisque c'est des combattants entraînés et très engagés, même d'un point de vue idéologique et politique. Et c'est toujours ceux que tout le monde a laissé tomber quand il n'y avait plus besoin d'eux et qu'il y avait besoin de faire justement des retournements d'alliance. Donc, ils sont aujourd'hui éparpillés sur quatre pays différents, donc en Turquie, en Syrie, en Irak et en Iran, avec des objectifs politiques qui sont très différents entre les Kurdes d'Irak et les Kurdes de Syrie, par exemple. On n'est pas du tout sur les mêmes sur les mêmes objectifs politiques, mais en tout cas, voilà, ceux qui sont arrivés le plus loin en matière de construction d'un autre projet multiculturel, on va dire, et de faire coexister pacifiquement à la fois femmes et hommes et différentes cultures, ce sont les Kurdes de Syrie, et c'est justement ce qui se construit dans cette zone du Rojava, qui est probablement une des raisons aussi qui fait qu'ils soient à ce point attaqués, parce que beaucoup de gens n'ont pas intérêt à voir se développer ce type de projet au cœur du Moyen-Orient, puisque beaucoup comptent sur une revendication forte de l'islam politique. C'est le cas notamment d'Erdogan. Il ne faut pas oublier que des élections générales vont avoir lieu l'année prochaine en Turquie et qu'on est toujours sous l'état d'urgence là-bas. Et que, évidemment, la militarisation de la société et du débat profite au pouvoir en place. Donc il y a aussi des objectifs de politique nationale et de politique intérieure turque qui jouent dans cet affrontement et dans cette escalade militaire qui est extrêmement préoccupante. La Syrie, les habitants de la Syrie, franchement, n'avaient pas besoin de ça vu l'horreur dont ils sortent.
C'est pas la peine d'en rajouter. Je voudrais quand même qu'on termine là-dessus. Il y a une invasion turque en Syrie.
Tout à fait.
Que fait la Syrie ? Enfin, je veux dire, elle se fait attaquer. Il y avait une guerre interne, civile intérieure, avec des aides venant de l'extérieur. Bon, jusque-là, tout va à peu près bien, on va dire. On reste encore sur le plan politique, hein. Effectivement, les sociétés civiles en prennent plein la tête. Mais là, il y a une invasion concrète d'un pays souverain sur un autre.
D'abord, le régime de Bachar el-Assad n'a jamais été très gêné que des civils s'en prennent plein la tête. Hein.
Oui,
ils ont pris leur part en termes de bombardement et d'atrocités. Donc, c'est pas forcément ça qui va les faire réagir. Après, effectivement, sur l'absence de réaction officielle de la Syrie, toutes les hypothèses aujourd'hui sont ouvertes et les négociations vont sans doute bon train derrière la scène publique, mais je n'ai pas d'éléments particuliers sur Bachar el-Assad en tant que tel.
Ça, c'est quand même la première grande question. Alors, ce sera peut-être l'occasion d'un voyage, Corinne Morel, d'Arleux.
Oui, tout à fait, puisque moi, ça fait 2 ans que j'essaye d'aller au Rojava, justement, et de pouvoir observer sur place la manière dont ce projet politique se construit et de pouvoir en rendre compte de retour en Europe. Ça fait 2 fois que j'ai des possibilités de m'y rendre qui sont battues en brèche justement par l'évolution du conflit en Syrie. Notamment la dernière fois, c'était juste avant l'attaque sur Mossoul qui a rendu le voyage impossible. Et donc là, il y a une nouvelle fenêtre de tir, si je peux m'exprimer ainsi, qui me permettrait de me rendre sur place en passant par Erbil, au niveau du Kurdistan irakien, avec une équipe de journalistes de France 2 qui souhaite réaliser un documentaire. Donc on est en train d'essayer de monter ça, ce qui, comme vous pouvez l'imaginer, est assez compliqué à organiser. Et en même temps, je dois dire, qui, moi, me tient à cœur, parce que c'est aussi une manière de passer des mots et des communiqués de soutien à l'action de solidarité concrète en se rendant sur place. Une manière aussi de ne pas parler en l'air, c'est-à-dire de voir vraiment sur place comment les choses se passent, puisque pour l'instant, on se base beaucoup sur des choses qu'on nous raconte, qu'on lit à droite à gauche, sur des témoignages indirects. Et du coup, je trouve que la cause est suffisamment importante pour justifier de pouvoir l'étayer avec des faits, des observations, des témoignages directs. Et je trouve que c'est important dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, qui a été bouleversée par les attentats djihadistes, où on entend beaucoup de choses, beaucoup de propos excessifs, et où souvent ces attentats sont instrumentalisés pour mettre en place des mesures ultra-sécuritaires et puis pour aussi essayer d'amalgamer tous les musulmans avec les djihadistes. Voilà, toutes ces choses qu'on a pu entendre. Je pense que c'est important de faire connaître ce projet du Rojava, de faire savoir qu'il n'y a pas de fatalité et que y a des endroits où des musulmans, des kurdes, des yézidis, des turkmènes, des chrétiens peuvent vivre ensemble avec des principes de laïcité, de féminisme, d'écologie, de socialisme. Ça me paraît tellement rare, tellement précieux dans la période qu'on vit, que je pense que c'est voilà, important de le faire connaître, et que le meilleur moyen de le faire connaître, bah, c'est effectivement de pouvoir rapporter des images, des témoignages, des observations. Et je crois que quand on se rend sur place, on acquiert une légitimité dans le discours et une capacité d'impact beaucoup plus importante. Donc voilà, c'est un projet qui me tient à cœur et dont j'espère qu'il va finir par pouvoir se réaliser.
Bon, alors là, je sors mes propres, hein, c'est tout ça et de moi, je ne vous engage pas là-dessus, mais France 2 n'est pas réputée pour être particulièrement un média totalement libre. Est-ce que vous pensez que les infos qui pourront être amenées dans le cadre de ce documentaire le seront? Seront-elles diffusées librement? Parfois, elles sont bien ramenées, ces infos, mais pas totalement diffusées. Et enfin, qu'est-ce que vous attendez à trouver là-bas? Parce que c'est quand même une zone de guerre, en dehors de tout ce que vous nous dites là, bon, une action du féminisme, une action politique avancée, on est quand même dans un endroit où ça se tire dessus régulièrement, ou pas, peut-être, on va l'entendre maintenant.
Alors, pas partout, c'est-à-dire que pour l'instant, l'offensive dont on a parlé sur Afrin se situe tout à fait à l'ouest du Rojava, et en l'occurrence, nous, on se rendrait plutôt dans la zone orientale, qui n'est pas une zone aujourd'hui de conflits armés et de guerre. Je dis bien aujourd'hui, parce que les choses évoluent très vite, mais enfin, en tout cas, pour l'instant, ça n'est pas le cas. Et je ne pense pas que ce soit le cas, parce que je pense qu'en réalité, Erdogan n'a aucun intérêt aujourd'hui à poursuivre son offensive vers l'Est. Et il a tout intérêt à se reposer sur sa victoire à Afrin plutôt que d'aller se mettre dans un bourbier face aux forces américaines et françaises plus à l'est, à Manbij. Donc ça c'est une première chose. Après, par rapport à France 2, moi j'échange énormément avec les journalistes avec lesquels on partirait. J'ai la conviction aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté aussi ce documentaire, que le traitement sera juste et correct. On est dans un cadre un peu particulier, puisqu'il s'agit d'un documentaire dans une case de programmation de France 2 qui est le dimanche, qui s'appelle le 13-15. Et donc c'est du documentaire, c'est pas du reportage, c'est pas du traitement au journal télévisé. Il y a une latitude en termes de liberté d'expression, de ton, qui est assez importante. Moi, j'ai visionné ce qui avait été fait dans cette case-là précédemment. J'ai regardé ce qu'avaient fait les journalistes avant. Et aujourd'hui, je suis en confiance avec l'équipe. On en a beaucoup discuté. On a mis les cartes sur table. Hein. Donc après, c'est des journalistes. Hein, donc elles ne prennent pas parti. Mais en tout cas, j'ai l'assurance que ce qu'on va voir ne sera pas orienté et que mes propos ne seront pas travestis. Donc voilà, l'idée, c'est qu'elles me suivent en fait pendant toute cette mission au Rojava. Et aujourd'hui, je suis plutôt en confiance et rassurée sur le traitement qui en sera fait.
Alors on va suivre ça, ce voyage donc au Rojava. C'était rapport à cette question orale qui a été posée à Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez, si on conclut avec ça, qui globalement est plutôt contre cette offensive turque, plutôt en soutien avec les
Alors,
Kurdes.
Alors oui, tout à fait. C'est marrant d'ailleurs, parce qu'on a mis en ligne la vidéo de ma question et de la réponse de Laurent Wauquiez. Et puis depuis, j'ai plein de retours de gens qui me disent « Oh, bah, ça a dû vous faire bizarre d'être d'accord avec Laurent Wauquiez ». Donc oui, de fait, sa réponse, il faut le souligner, hein, a été sans ambiguïté, c'est-à-dire qu'il a très clairement condamné effectivement ce qui était en train de se passer, l'offensive turque, et affirmé son soutien aux Kurdes. Donc c'est évidemment une très bonne chose. Hein. On peut en débattre, mais pour moi aujourd'hui, la situation d'urgence humanitaire et politique est telle dans cette région du monde que on n'en est pas à mégoter sur les soutiens selon leur couleur politique. Et pour le coup, moi je me réjouis que le président des Républicains apporte lui aussi son soutien. Je pense que plus il y aura de monde à le faire et plus ce sera large, plus on aura un front large sur cette question, plus on sera utile à la cause. Pour une fois, effectivement, je suis d'accord avec Laurent Wauquiez et je m'en réjouis.
Bon, et qu'il ne modifie pas sa réponse après, hein, ce serait dommage quand même.
Bah, ce qui est dommage surtout, c'est qu'en fait, sur une question orale comme celle-ci, il n'y a pas de vote, il n'y a pas de délibération, il n'y a pas de texte. Voilà, la seule chose qu'on a, c'est cet enregistrement vidéo. Et donc, je vous invite à la faire tourner un maximum. Mais pour le coup, non, je crois que sur cette question, Laurent Wauquiez s'est exprimé de manière très claire et ne reviendra pas sur ses propos.
On parle de la politique agricole commune, c'était un autre sujet de cette session plénière du 29 mars.
Oui, tout à fait, parce qu'il y avait une délibération sur la renégociation des budgets européens, puisque la région bénéficie d'un certain nombre de fonds européens, et donc il s'agissait de se mettre d'accord sur ce que la région Auvergne-Rhône-Alpes allait porter en termes d'orientation pour ses futurs budgets européens. Et donc ça a été l'occasion pour nous d'intervenir sur la politique agricole commune qui va elle aussi être renégociée et redéfinie. On a pointé un peu ce qu'on défend nous depuis le début de ce mandat, hein. C'est-à-dire que dans le rapport qui nous était proposé, il n'y avait rien sur l'agriculture paysanne, il n'y avait rien sur une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement, de la santé à la fois des producteurs et des consommateurs. Donc on a proposé un amendement qui permette d'intégrer ça en fait dans ce que la région va porter dans les négociations. Et puis de porter aussi des mesures concrètes, c'est-à-dire par exemple le fait de plafonner les aides de la PAC, puisque aujourd'hui c'est des aides qui sont versées à l'hectare, et donc plus vous avez d'hectares, en gros, plus vous avez d'aides. Et on sait que aujourd'hui, ceux qui ont le plus d'hectares sont aussi ceux qui embauchent le moins, parce que c'est des très grandes exploitations qui sont très fortement mécanisées et que ce n'est pas forcément celles qui ont le plus besoin des aides européennes. Donc on a proposé ce plafonnement des aides. Malheureusement, une fois de plus, nos propositions n'ont pas été retenues.
Il y a en ce moment des manifestations assez massives d'agriculteurs, notamment sur la question des zones dites sensibles où il est compliqué de faire concrètement de l'agriculture. Et donc il y avait des aides aussi un peu particulières qui venaient dans ce cadre-là. Est-ce que des zones sont concernées en Auvergne-Rhône-Alpes? Est-ce que ça fait partie du débat?
Alors il y a plusieurs choses en fait, parce que du coup quand on rentre en période de renégociation, il y a plein de choses qui émergent et il va y avoir effectivement toute une séquence là de lutte et pour faire connaître les difficultés d'un certain nombre d'agriculteurs. Il y a notamment une chose qui nous concerne directement dans la Drôme et aussi en Ardèche, qui a été l'objet d'ailleurs d'un lab de pas mal d'actions et de manifestations de la Confédération paysanne, sur des surfaces pastorales qui sont des surfaces peu enherbées, comme on dit. C'est les garrigues, c'est les lieux rocailleux, les zones de montagne comme on peut les connaître, sur lesquelles il y a de fait de l'agriculture et notamment de l'élevage, mais pas seulement. Et ces zones-là, justement, elles risquaient d'être sorties en fait des aides européennes parce qu'elles rentraient pas dans les critères de compétitivité formulés par l'Union européenne. Et donc là, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelques jours, ce combat-là a été victorieux, puisque de fait, elles vont bien être prises en compte. Donc normalement, ça fait une chose de moins sur laquelle il va falloir se battre dans les semaines qui viennent. Et c'est un bel exemple, une fois de plus, que la lutte de temps en temps quand même paye. Et là, de fait, il y a eu effectivement une belle mobilisation de la conf et des agriculteurs concernés qui ont multiplié les actions, les rencontres, notamment au niveau de la préfecture, mais pas seulement, et qui ont finalement obtenu gain de cause, ce qui est une excellente chose.
On passe à cette orientation sur le développement économique. J'ai noté ça comme ça, j'ai rien compris.
Franchement, il y avait malheureusement pas grand-chose à comprendre. On a eu un rapport qui était sur le principe très important, puisque c'est le texte qui fixe les grandes orientations en matière de développement économique de la région. Donc le développement économique, c'est une des nouvelles compétences de la région. On parle quand même des aides aux entreprises, de comment on fait pour favoriser la création d'emplois pérennes, de qualité, etc. Donc c'était quand même un texte qu'on attendait beaucoup.
Est-ce que ça ressemble à ce qui était avant les grands projets de la région Rhône-Alpes? On prenait 5 grands axes et puis on misait dessus, non?
Alors ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être ça. De fait, c'est pas du tout ça qu'on a découvert, puisque on a découvert un texte dans lequel en fait on a eu beaucoup de mal à comprendre justement quel était le projet ou quels étaient les grands projets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grands axes. n'y a pas de cap politique. On ne sait pas quel est le projet à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. C'est plus la réaffirmation de principes qu'on connaissait déjà de la part de Laurent Wauquiez, c'est-à-dire le principe des aides directes aux entreprises, donc de supprimer un maximum les intermédiaires, les comités, les jurys, etc. De privilégier les aides à l'investissement et non pas les aides au fonctionnement, c'est-à-dire les aides au fonctionnement, c'est tout ce qui est salaire d'animation, de gestion, de suivi, etc. Donc voilà, ce texte réaffirme des principes. Il parle beaucoup de, là aussi, de compétitivité. On a l'impression de lire un texte écrit finalement plus par des chefs d'entreprise que par des élus politiques. Et donc, ça manque de grandes orientations pour la région. Il n'y a pas de spécialisation particulière dans un secteur économique. Une fois de plus, on a du mal en fait à percevoir. Quel est le projet politique de Laurent Wauquiez pour la région et ses habitants, en fait. Donc finalement, ce rapport, c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, parce que finalement, il n'y a pas de grandes nouveautés, il n'y a pas de grandes ambitions, et c'est voilà, pour nous un rapport qui a été plutôt une déception. Il y a très peu de contreparties. Nous, depuis le début, c'est une des choses qu'on essaye de pousser, hein, le fait d'avoir une conditionnalité des aides, c'est-à-dire de dire on aide les entreprises, d'abord on les aide sur des critères, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller aider une grande entreprise qui verse des dividendes à ses actionnaires et qui se porte bien et qui n'a pas besoin d'argent public. Bon, ça, c'est toujours pas inscrit. Ce qu'on dit, nous aussi, c'est que quand on aide une entreprise, il faut que l'entreprise s'engage, qu'elle s'engage sur, justement, la création d'emplois en CDI, qu'elle s'engage sur le respect de l'environnement, enfin voilà, qu'on mette un certain nombre de conditions. Bon, bah ça, c'est toujours pas le cas non plus. Il y a eu un petit pas, un micro pas dans ce sens, qui dit que en cas de non-respect, de je sais pas quoi, la région pourra demander le remboursement des aides, mais pourra demander. Donc, moi j'ai défendu un amendement visant à dire qu'elle demandera. Parce que la conditionnalité, c'est pas dans la mesure du possible, hein, mais même ça n'est pas passé. Donc on reste voilà, dans quelque chose d'assez vague finalement, et où on ne sait pas trop sur quels critères et avec quelles conditions on aide les entreprises de la région.
Alors qu'on a quand même vraiment des filières d'excellence en Auvergne-Rhône-Alpes, comme ailleurs, hein, mais on peut le dire, on en a quand même des chouettes. Alors là où par contre c'est très très clair visiblement sur l'orientation économique de la région, c'est sur... deux grands projets inutiles, en tout cas, les canons à neige, la fédération de chasse, je mets tout en même temps.
Ouais.
Comme ça, on se fait un petit récapitulatif de l'argent investi.
Bah, sur les canons à neige, c'est un bon exemple, parce que, de fait, c'est une des filières d'excellence de la région, c'est-à-dire qu'on a des entreprises, effectivement, notamment dans les Alpes, qui sont spécialisées dans les remontées mécaniques et dans l'enneigement artificiel. Et de fait, là, Laurent Wauquiez, qui est très libéral au sens économique du terme habituellement, devient très interventionniste, puisque, effectivement, il a accompagné ses entreprises en déplacement officiel en Chine pour les aider à décrocher des marchés en vue des Jeux Olympiques d'hiver 2022 à Pékin. Donc il y a voilà, c'est l'interventionnisme et les aides aux entreprises prennent différentes formes. Et puis pour stimuler cette exportation vers la Chine et avoir une vitrine à l'export, et ben on continue à équiper les stations des Alpes en enneigement artificiel, en canon à neige. Donc là, on a à nouveau, nous on l'a pas voté, mais la région a à nouveau voté 1 million d'euros pour les canons à neige, ce qui fait qu'on en est quand même depuis le début du mandat à 34 millions d'euros d'équipement en canon à neige qui, là aussi, ne répondent à aucun critère de vulnérabilité particulière puisque tous les dossiers de demandes qui sont faits sont acceptés et financés par la région. Même des stations qui n'en auraient pas forcément besoin bénéficient de cet argent public pour des canons à neige qui risquent, un, de les endetter parce que la région ne prend qu'une partie en charge, et deux, qui risquent de ne pas fonctionner très souvent puisque ces canons à neige, ils ont besoin d'énergie, d'eau, dont on sait qu'elle devient de plus en plus tendue, hein, en termes de ressources, et puis aussi de froid, Alors là, on a eu un hiver froid et avec beaucoup de neige, mais toutes les prévisions sur le moyen et le long terme indiquent que ce sera de moins en moins le cas dans les années qui viennent. Et donc, ces canons à neige risquent de rester à l'arrêt et de plomber les finances des stations sans leur rapporter. Par contre, effectivement, ça fait une vitrine de promotion de cette filière-là, probablement pour les marchés à l'exportation.
L'occasion de dire, parce que tout le monde a oublié, c'était effectivement un bon hiver, mais ça faisait 5 ans que ce n'était pas arrivé. Et Dixit, des grandes stations, le Lyon-Turin, l'autoroute A45, il y a eu aussi quelques mots là-dessus dans cette
Alors effectivement, dans cette session, on a retrouvé un peu toutes les thématiques récurrentes. Sur la Fédération régionale de la chasse. Ouais. Bon, il y a eu une assemblée générale qui s'est tenue dans les locaux de l'hôtel de région, qui ont d'ailleurs perturbé la tenue d'un certain nombre de commissions thématiques, puisque le corps de chasse a résonné dans l'hôtel de région. Et que ça fait beaucoup de bruit quand vous êtes en commission et que vous essayez de débattre des rapports. Par exemple, ont été votés à nouveau 380 000 euros pour la rénovation de locaux de fédérations de chasse, dont certains d'ailleurs dont on a du mal à trouver la trace.
Des locaux.
Ouais, tout à fait. Donc c'est là aussi, ça fait partie des enquêtes à poursuivre. Et puis on a retrouvé aussi effectivement la 45 et le Lyon-Turin dans le rapport sur le développement économique, qui sont cités dans ce rapport comme des exemples de grands projets à soutenir. Alors, pour s'assurer d'un vote majoritaire sur certains éléments, Laurent Wauquiez a fait voter de manière séparée les différents grands projets inutiles et imposés. Parce que, on sait que le Lyon-Turin, par exemple, est soutenu, par exemple, par des élus du Parti Socialiste qui ne soutiennent pas la 45. Enfin bon, voilà, c'est beaucoup fonction de quel territoire sont élus ces conseillers régionaux. Donc il a fait voter ça par petits bouts. En ce qui nous concerne, on a voté contre à la fois, évidemment, la 45, qui est cette autoroute qui doublerait l'autoroute déjà existante entre Lyon et Saint-Étienne pour être ensuite confiée à Vinci, sachant que l'autoroute actuelle pourrait être faire l'objet de travaux d'amélioration et qu'elle a l'avantage d'être aujourd'hui gratuite. Voilà, ce serait 130 millions d'euros de la région pour une autoroute confiée à Vinci que finalement les habitants paieraient deux fois, une fois par l'argent public de la région puis une fois par le péage, qui passerait en plus sur des terres agricoles. Bref, c'est un projet qui pour nous est inutile et nuisible. Pareil pour le Lyon-Turin, ça fait des années qu'on se bat contre ce projet et qu'on explique qu'il y a des alternatives sur la ligne existante qui pourraient être mises en œuvre beaucoup plus rapidement et à coût beaucoup plus faible. Ça a été l'occasion de débattre à nouveau de ces projets et de cette utilisation de l'argent public vers les canons à neige, vers les grands projets inutiles et imposés qui va à l'encontre, nous, de notre projet d'une région du bien vivre et où l'argent va à ceux qui en ont le plus besoin, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas.
On va terminer, Corinne Morel-Darleux, avec du local et cette gare de Die, mais qui, comme beaucoup de gares, sont aujourd'hui mises à mal. Le service public, on est complètement dans l'actualité du moment. SNCF est clairement attaqué en ce moment. Cette gare a été déjà menacée plusieurs fois de fermeture, la ligne entière même. Il y a eu un mouvement ici à Die pour défendre cette gare et puis pour mettre en avant sans doute quand même ce qui est en train de se passer au niveau de la SNCF.
Oui, tout à fait, surtout que c'est typiquement un exemple quand on dit que de l'argent il y en a et qu'il n'est pas forcément bien distribué et qu'il ne va pas forcément là où il y en a besoin. Pour le coup, voilà un excellent exemple. Malheureusement, le Diwa est en train de devenir un cas d'école de la casse des services publics et de la casse de la ruralité. C'est-à-dire que concrètement, on est sur un territoire qui est un des territoires en zone rurale qui est plutôt dynamique d'un point de vue démographique, où on voit des jeunes, des familles venir s'installer, dont la population augmente, qui est un endroit où on arrive encore à bien vivre, même avec des ressources limitées et même avec un taux de chômage important, mais où il y a de la solidarité, de l'entraide, des alternatives qui se construisent, etc. Et voilà que sur ce territoire, on est en train de saper justement toute cette dynamique et toute cette volonté de bien vivre au pays. Voilà, sous le coup, là, en quelques mois, de la fermeture de la maternité, de la fermeture maintenant dont on parle des urgences de nuit, on n'a plus de chirurgie à l'hôpital, on a des emplois aidés qui ont été supprimés à l'ESCDD, à l'école, on a la poste qui est menacée, et maintenant on nous parle de fermer le guichet de la gare au mois de juin. Donc c'est vrai qu'on a quand même le sentiment de plus en plus qu'on est considéré comme des citoyens de seconde zone, et que finalement le message qui est envoyé, c'est que si vous voulez avoir accès à des services de soins, d'éducation, de santé, de mobilité, bah, vous n'avez qu'à vivre en ville. Sauf que tout ça est totalement contradictoire avec les grandes envolées lyriques qu'on entend des mêmes qui se pâment devant la beauté de la campagne et de la ruralité, des montagnes et de ces territoires à préserver, de ces habitants à chouchouter. Sauf que dans la réalité des faits, c'est quand même là que ça tombe, et c'est là que c'est le plus vital. C'est-à-dire que concrètement, le jour où il n'y a plus d'hôpital, plus de postes, plus de gares à Die, il n'y a plus d'habitants, il n'y a plus de gens qui vont venir s'installer. Et on sait que c'est des réactions en chaîne, parce que des familles ne vont pas venir s'installer dans un endroit où il n'y a pas de maternité, pas de chirurgie, et donc c'est autant d'enfants en moins qui iront à l'école, c'est autant de trafic en moins pour la ligne de train, etc. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qui est en train de se passer et qu'on a déjà vu à l'œuvre et qu'on connaît par cœur, hein, c'est cette espèce de manière de laisser se dégrader les services publics pour pouvoir ensuite les accuser d'être inefficaces. Sur la ligne de train, par exemple, on a des gens qui nous disent « bah oui, mais il faut regarder les choses en face, il y a de moins en moins de gens qui prennent le train, donc finalement, c'est pas rentable, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de le garder ?» Mais pourquoi il y a de moins en moins de gens qui prennent le train ? C'est aussi parce qu'il y a de plus en plus de dysfonctionnements, de retards, de manque de personnel. Et justement, ce qu'on demande, nous, et ce que demandent les cheminots, c'est de maintenir les effectifs et les investissements nécessaires pour que les trains roulent de manière correcte, qu'ils soient à l'heure, et c'est ça qui fera revenir les usagers. C'est ça qui fera que des gens recommenceront à prendre le train. Donc on est là vraiment dans une situation totalement absurde, qui est d'autant plus absurde que s'y ajoute aujourd'hui la question climatique, et qu'on sait que le train, que ce soit pour le transport de voyageurs ou pour le transport de marchandises, est une des réponses à la fois pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour réduire la pollution de l'air, pour réduire du coup un certain nombre de problèmes de santé publique et de maladies respiratoires. Enfin, le combat aujourd'hui que mènent les cheminots contre la réforme de la SNCF, pour le maintien de leur statut, de leurs conditions de travail, mais aussi pour le refus de l'ouverture à la concurrence, c'est un combat d'intérêt général qui nous concerne toutes et tous, qu'on prenne le train ou pas. C'est aussi un combat justement pour contre la pollution de l'air, pour le droit à une ruralité heureuse, pour toutes ces questions-là. Enfin, c'est la raison pour laquelle ce qu'on entend dans certains médias dominés qui visent à essayer d'en faire un combat sectoriel de gens attachés à leurs privilèges est vraiment choquant, parce que quand on regarde la réalité des conditions de travail des cheminots, on est loin des privilèges d'un certain nombre de parlementaires et d'éditorialistes qui eux-mêmes bénéficient des aides à la presse, qui sont payés là aussi par tout le monde, y compris les gens qui lisent pas Le Figaro et Valeurs Actuelles, voyez. Donc c'est une période qui est particulièrement pénible sur la teneur des propos qu'on peut entendre sur certaines ondes, et qui est en même temps absolument cruciale, puisque on est là sur un début de convergence des luttes avec à la fois le mouvement des cheminots, mais aussi de manière plus générale du secteur public, des fonctionnaires, des étudiants également qui sont mobilisés à la fois contre la réforme dite Parcoursup, mais aussi contre les violences de Nervi, d'extrême droite, qui se sont multipliées dans un certain nombre d'établissements, avec dans certains cas, notamment à Montpellier, la bienveillance. voir la complicité du président de l'université et d'un certain nombre de professeurs, ce qui est quand même très inquiétant là aussi sur ce que ça dit de l'état de notre société. Donc voilà, en tout cas, il y a plein de secteurs professionnels, de catégories différentes de la population aujourd'hui qui sont en train, je crois, de prendre conscience de ce que ce gouvernement est en train de mettre en place en matière de politique libérale, avec une offensive qui est inédite par son ampleur, sa violence et surtout par la multiplicité des fronts qu'elle ouvre. C'est-à-dire que concrètement, c'est réforme sur réforme, contre-réforme sur contre-réforme. C'est une stratégie de la part d'Emmanuel Macron qui vise
ultra
à étourdir les syndicalistes, les militants et les citoyens qui sont opposés à ces politiques. Sauf qu'au lieu de les étourdir, il va peut-être finir par multiplier au contraire les fronts contre lui. Et si ces fronts arrivent à converger, et c'est ce qu'on espère, on peut avoir enfin une résistance qui devienne massive, populaire et majoritaire dans ce pays. Pour revenir au local, ce qui est très important, c'est l'information d'une mobilisation à la fois déterminée et festive qui va avoir lieu en gare de Die ce vendredi à partir de 18h. Il y aura des prises de parole, mais aussi de la musique. Et l'idée est d'être le plus nombreux possible en gare de Die vendredi à partir de 18h pour montrer notre attachement à cette gare, à son guichet, à sa ligne et à ses trains.
Vendredi 6 avril. Merci Corinne Morin-Darleux. On s'arrête ici pour ce compte-rendu de session plénière du 29 mars dernier. La prochaine plénière, c'est les 14 et 15 juin. Donc, à bientôt.
À très bientôt. Merci.
Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.